Merci au Seigneur pour ces bons moments dans sa présence et le bien qu'il fait à chacune de nos âmes. Soyez bénis, bienvenue à tous. S'il y a des frères et sœurs qui nous visitent, s'il y a des personnes nouvelles, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de pouvoir passer aussi ces moments avec vous. Effectivement, avec le Seigneur, tout est grâce. Du début jusqu'à la fin, je ne peux rien faire valoir devant lui. Tout est grâce. Je le saisis par la foi, je l'accepte par la foi. Je le vis. Mon cœur est comblé, mon cœur est transformé. Tout est grâce. Amen. Pour ce matin, je vous invite à ouvrir avec moi le livre de la Genèse. Et je vais commencer la thématique que je vous ai annoncée tout au long du mois d'août. Je pense qu'à quelques exceptions près, un maximum de frères et sœurs sont présents et sont rentrés. Et je vous ai dit que nous allions prendre le temps, et nous allons le prendre, de développer ensemble cette thématique biblique. Il restaure mon âme, qui n'est pas seulement une parole de David, effectivement dans le psaume 23, on le lira plus tard, mais ce n'est pas seulement une parole pour une parole, c'est vraiment une thématique vraiment importante dans la parole de Dieu. Vous savez, je dis nos, parce que ça se voit partout dans plein d'églises, nos églises sont pleines de gens meurtris, blessés, déçu, cassé. Certains, à cause de leurs blessures non cicatrisées, parce que peut-être une thématique que l'on n'a pas suffisamment pris à cœur, on n'a pas été au fond des choses, on n'a pas forcément pris le temps, on n'a pas pris le temps de développer, de comprendre les sentiers de la justice, les sentiers de restauration. On s'est contenté d'un survol, on a eu un message par là sur le pardon, un message par-ci sur la consolation. Mais en réalité, il y a vraiment des sentiers, il y a des chemins. Et malheureusement, combien de bien-aimés, de frères et sœurs, bien qu'ils soient présents, bien qu'ils soient sauvés, bien qu'ils soient gentils, bien qu'ils soient de bonne volonté, bien qu'ils soient même agréables dans une certaine mesure, ont des blessures cicatrisées qui malheureusement, non cicatrisées, qui malheureusement ont fait d'eux des boiteux dans la vie spirituelle. Certains sont devenus tristes, résignés, fatalistes, d'autres se sont endurcis, comme on l'a entendu dans le don spirituel, et puis on a commencé à ériger des murs, on a commencé à se construire une forteresse, une carapace, en pensant se protéger, on est devenu méfiant, on est devenu suspicieux. Ça va, frère ?
Oui, ça va.
Méfie-toi de lui. Oh, c'est pas une vie, ça. Et la réalité, bien aimé, c'est que tant qu'on n'est pas restauré, au sens où Dieu l'entend, et c'est ce qu'on va voir dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, tant qu'on n'est pas restauré, au sens où Dieu l'entend, on va continuer à penser, à agir, à réagir en fonction, non pas de Jésus le bon berger qui nous conduit, mais en fonction de nos blessures passées. Et on va essayer de se protéger tant bien que mal. C'est ce qui nous amène à nous créer une carapace. C'est ce qui nous amène à créer cette forteresse ou parfois même à se mettre des masques en réalité. Et derrière ces carapaces, derrière ces murs, ces forteresses, prenez le nom que vous voulez, derrière lesquelles on se réfugie, ah oui, c'est sûr, on a pensé se protéger. Mais la vérité, c'est que l'on s'est isolé et qu'on se coupe même de la restauration de Dieu. On pense se protéger, on pense vivre en paix, mais en réalité, on s'enferme. Et le vrai problème, c'est que la blessure reste. Et comme la blessure reste, et qu'elle n'est pas traitée, n'importe quelle infirmière ou médecin vous dira ça, s'il n'y a pas guérison, il y a infection. Et qui dit infection dira derrière putréfaction. C'est obligatoire, la nature, mon corps me l'enseigne. Et dans tout ça, bien aimé, on se dit, on regarde des tas d'églises, des tas de vies chrétiennes. Puis on se dit, Seigneur, mais on est tellement loin du compte. C'est ça la vie chrétienne ? C'est ça la vie chrétienne ? Dieu n'avait-il pas plus pour toi ? Dieu n'a-t-il pas plus pour moi? C'est comme on en parlait la semaine dernière, on parlait de cette Zoé de Dieu. Dieu n'a-t-il pas une vie de qualité, une vie bénissante, épanouie en l'intérieur de mon être, plus forte que tout ce que je dois traverser? Et je me rends compte que malheureusement, on a dans nos églises plein de gens sauvés, bien gentils, mais qui malheureusement sont bien loin d'être les personnes que Dieu voudrait. Est-ce qu'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu réponds dans ton cœur, est-ce que tu es la personne que Dieu veut que tu sois? Et si tu ne l'es pas, c'est certainement que tu as besoin de considérer avec nous dans les mois qui viennent des chemins. Il y a plusieurs chemins pour des restaurations authentiques. Alors on va prendre le temps, on va être profond, on va considérer les différents principes bibliques. Mais aujourd'hui, je veux juste faire un message d'introduction. Et ce que j'ai entendu dans le don tout à l'heure, je veux aussi que vous sachiez que peu importe les gens qui apportent une pensée de l'esprit, même quand ça arrive, que ce soit mon épouse, je veux que vous sachiez que je ne partage jamais, c'est entre Dieu et moi, je ne partage jamais, même pas à mon épouse, les notes qui sont écrites ici. Jamais. Je fais confiance au Seigneur. Il fera dire ce qu'il a à faire dire par qui il doit le dire. Mais jamais je ne partage ce qu'il y a sur mon cœur et la pensée que je développerai le dimanche. Et je veux vraiment considérer ça avec vous. Ça peut paraître très simple, mais je veux qu'on soit tous bien d'accord et qu'on soit tous bien calés, parce qu'on ne prend pas le départ si on n'est pas convaincu qu'il faut aller dans ce chemin. Ce matin, je vais faire quelque chose de très simple, peut-être même presque bête. Je voudrais juste vous dire, la restauration est nécessaire. Je voudrais vous parler de la nécessité absolue de connaître soit une restauration si vous en avez besoin, ou si vous allez très bien, de connaître aussi les chemins, les sentiers d'une restauration. Parce que mes frères et sœurs, je vous l'ai dit la semaine dernière, vous prenez la Bible de la première à la dernière page, et si vous enlevez, si vous arrachez chaque page où vous trouvez un mot M-O-T ou les mots M-O-U-X, si vous arrachez chaque page où il y a un mal ou un mot qui ne vous convient pas, à part le premier et le dernier verset, il vous reste rien. Frères et sœurs, dans la vie avec Dieu, les heurts, les coups, les combats, les blessures sont inévitables. Il faut que je comprenne le principe de la restauration et que je comprenne cette facette de Dieu qui est non pas le Dieu qui va faire en sorte qu'il m'arrive rien, on le verra aussi plus tard dans d'autres aspects de la vie de Joseph, on a aussi besoin de chemin personnel, on a besoin de brisement, on a besoin, pardonnez-moi, que le Seigneur se serve de quelqu'un, oui dans l'injustice, mais pardonnez-moi, il y a des moments, je l'ai vécu, le Seigneur il s'est servi de gens pour me rabattre mon caquet, je sais. Nous avons différents chemins à prendre. Et en définitive, pour ce matin, je veux simplement partager ça avec vous, puisque les blessures, tôt ou tard, quelle que soit leur forme, sont inévitables. Tous les chrétiens de France et de Navarre devraient connaître les chemins de la restauration. C'est ce que je me propose de voir avec vous dans les temps qui viennent. J'ai pas la main, il va peut-être falloir juste éteindre le vidéopsalme, le PowerPoint et le relancer. Vous pouvez déjà ouvrir avec moi la Genèse au chapitre 41. Ça, c'était pour mon introduction. On reprend les versets 50 à 52. Je dis on reprend parce que lorsque j'étais venu vous visiter le 1er décembre, c'était le texte que j'avais déjà ouvert avec vous à ce moment-là. Genèse 41, les versets 50 à 52. Et je vous l'avais dit, alors je ne vais pas reprendre, le message est en ligne, le message du 1er décembre, je ne vais pas reprendre bêtement le même message, il va y avoir des éléments communs, il va y avoir des éléments nouveaux. Mais quand je suis venu vous voir le 1er décembre, vous n'aviez pas encore pu vous prononcer, de savoir est-ce que je serai un jour votre pasteur. Mais moi, dans mon cœur, je vous l'ai dit, dans mon cœur, 8 jours avant de venir vous voir, dans mon cœur, j'avais dit oui au Seigneur. Et quand je suis venu le 1er décembre, je n'étais pas venu avec un message pour un message. Je savais déjà, j'avais déjà quelque chose dans le cœur pour une direction à prendre avec vous, si un jour vous me disiez oui. Mais il semblerait que vous m'avez dit oui, alors merci beaucoup. Alors on va pouvoir avancer ensemble. Genèse 41, versets 50 à 52. Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Manassé et Éphraïm, et je veux partager avec vous ce matin cette simple pensée, la nécessité. Bon, j'ai rien. Ben écoutez, frère, vous allez suivre et puis vous allez avancer. Hein. Vous pouvez déjà mettre l'image suivante. Des noms Manassé et Éphraïm qui sont vraiment chargés de signification, qui ont un sens profond. Manassé qui signifie oublieux, Éphraïm qui signifie doublement fécond. Et ici, les noms que Joseph a choisis ne sont pas anodins. C'est réellement l'expression pour Joseph, comme un témoignage, c'est l'expression d'une victoire qu'il a remportée sur son passé. C'est une façon de confesser ce que Dieu a fait en lui. Manassé, c'est l'œuvre de Dieu en moi. Et Éphraïm, c'est l'œuvre de Dieu pour moi. Il y a son œuvre à l'intérieur et il y a son œuvre à l'extérieur dans les circonstances. Merci, on peut avancer encore. Rapidement, si vous n'êtes pas au courant, pour ceux qui ne sont peut-être pas encore vraiment bien au clair sur certains récits bibliques et sur certains personnages, je résume rapidement, vous lisez dans la Genèse des chapitres 37 et ensuite des chapitres 39 à 50 tout le récit de la vie de Joseph. La vie de Joseph, ce n'est pas compliqué à résumer, c'est 13 années, entre 17 et 30 ans, ce sont 13 années de souffrance, d'épreuve, d'injustice due à la trahison. À 17 ans, il est incompris, il est méprisé, rejeté par ses frères, on le jette dans une citerne, finalement on se dit tiens, il vaut rien, mais on pourrait peut-être quand même en tirer quelque chose. Donc ils le sortent de la citerne, ils vont le vendre comme esclave, il passe du temps chez Potiphar dans une maison, il est en déportation, il est loin de tout, il est en Égypte, il est très loin de la terre de Canaan. Et puis là, alors qu'il est droit, qu'il est intègre, la femme de Potiphar monte un complot contre lui. Joseph préfère être intègre et pour prix de son intégrité, Dieu permet que Joseph non seulement soit pas remercié pour son intégrité, mais que sa condition devienne encore pire, puisqu'elle se retrouve jetée dans une prison égyptienne. Et là, humainement parlant, tout est fini. Il n'y a plus de raison d'espérer. Humainement parlant, on ne miserait absolument rien sur lui, vu le nombre d'années qui ont passé, vu la gravité des circonstances, l'accumulation des blessures coup sur coup, alors qu'il a déjà passé 11 ans chez Potiphar, que ça commence sérieusement à faire long, et qu'il est droit et qu'il est intègre. Vous savez, les repères temporels dans la Bible sont extrêmement importants. Hein, parce que nous, à l'échelle de des fois quelques mois, un an, deux ans, trois ans, on commence à avoir le temps long. Mais regardez bien les repères temporels dans la Bible. Joseph, entre 17 ans et 28 ans, il est en déportation, il est esclave dans une maison. Et au moment où là, il est intègre, on pourrait se dire, ça y est quand même, Seigneur, tu vas l'en sortir de cette fournaise maintenant quand même. Ah non, il va descendre encore un peu plus bas et il va bien couronner le tout. Voilà, je parle du couronnement inverse. Hein. Il va bien couronner le tout pour bien clôturer le truc. Il va passer 2 ans dans une geôle égyptienne. Super, fantastique. 13 ans d'injustice. Quand vous voyez ça, vous le regardez, vous dites, qu'est-ce que Dieu peut faire avec ce genre d'homme ? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec mes blessures ? Qu'est-ce que Dieu va pouvoir faire, vu dans l'état dans lequel est mon âme aujourd'hui, vu ce que j'ai subi ? Qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire ? Et contre toute attente, Joseph, on le sait, du matin au soir, sera sorti d'Égypte parce que Dieu seul a la clé des temps et des circonstances. Quand c'est pas le temps, tu peux te battre, tu peux essayer de faire le forcing, tu peux essayer de briser tous les verrous que tu veux et de casser toutes les portes de prison que tu veux. À part te casser les dents, tu vas pas casser grand-chose parce que c'est Dieu qui tient la clé des temps et des circonstances. résistance. Et tant que Dieu dit, tu n'es pas prêt, la porte de ta prison s'ouvre pas. Mais quand Dieu dit, ok, maintenant tu es prêt, la porte de la prison s'ouvre. Le matin, il est prisonnier. Le soir, il est premier ministre de l'Égypte. Bah. Joseph est la preuve vivante que Dieu change le mal en bien. Il y a quelques textes dans l'Écriture qui sont extraordinaires pour résumer la Bible. Prenez Genèse 18. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel ? Ça, c'est un excellent résumé du Dieu de l'impossible. Et puis, ici, on a aussi autre chose. La preuve vivante que oui, c'est une façon de résumer la Bible. Dieu change le mal en bien. Et là, ici, Joseph est en train de dire, oui, c'est vrai. Je suis passé par le pire, mais Dieu m'a restauré. Et Dieu m'a donné un avenir justement là où, humainement parlant, il n'y avait plus rien, absolument plus rien n'a espéré. Et il vit deux grands miracles, Manassé, le miracle intérieur, Éphraïm, le miracle dans ses circonstances. Et il y a un plan dans cette restauration. Manassé, oublieux, c'est la première étape du plan de Dieu, c'est-à-dire une restauration, et on insistera, frères et sœurs, je vous expliquerai pourquoi, la restauration est totale. Et que tant que notre restauration n'est pas totale, en réalité, nous n'avons même pas vraiment d'avenir, je vais vous expliquer. Une restauration totale, c'est la première phase du plan, c'est l'œuvre de Dieu dans son cœur, en lui. Joseph proclame en appelant son premier fils Manassé qu'il est définitivement vainqueur sur son passé. Dieu m'a fait oublier, Manassé signifie oublieux, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et on aimerait bien, ah Seigneur, si seulement je pouvais oublier. Stéphane, tu peux pas faire un appel, faire une petite imposition des mains à tout le monde et que demain matin on se réveille et qu'on ait tout oublié. Et non, ça ne marche pas comme ça. Il ne s'agit pas d'oublier au sens de la perte de mémoire. Joseph n'est pas devenu amnésique. Il a oublié quant à la peine. Il a oublié quant à la douleur. C'est-à-dire que la douleur ne le faisait plus souffrir. Il a oublié quant à la peine. Et quand on parle de la peine, on ne parle pas d'un petit chagrin. Il n'a pas eu un petit moment à vide, excusez-moi l'expression, il n'a pas eu un petit coup de mou. Parce que son papa lui manquait, il n'a pas eu une petite larme à l'œil. Quand on parle de la peine, on ne parle pas d'un petit chagrin passager. On parle de la douleur, de la blessure intérieure. On parle des dégâts qui ont été causés dans son âme à cause de la trahison, à cause de ce qu'on lui a fait. Et quand il parle d'oublier toutes les peines et la maison de son père, c'est une métaphore, c'est une image, parce que Joseph sait parler de ce dont il faut parler, mais il sait en parler avec sobriété, avec discrétion. Mais là, c'est une image pour parler de ses frères et du mal qu'ils lui ont fait. Bien sûr, ils l'ont vendu, fait passer pour mort. Évidemment, ils sont bien sans considérer la main de Dieu, mais Joseph n'a pas perdu de vue la main de Dieu sur toutes circonstances, même les plus terribles. Mais humainement parlant, c'est eux qui sont à l'origine de sa peine et de sa douleur. Et il dit, Dieu m'a fait oublier. Mais on sait pertinemment qu'on n'oublie rien. La mémoire reste. Il est question d'oublier quant à la peine, quant à la douleur que ça me cause là, à l'intérieur. La douleur disparaît, je vous ai mis ici, mais la mémoire reste et Dieu nous a créés ainsi et c'est exprès parce que la mémoire va nous servir de test pour savoir si ma douleur a été réellement effacée. Joseph lui dit, je suis guéri, Dieu m'a restauré, je suis libre de tout, je suis libre de tous, je n'ai pas perdu la mémoire, mais là, à l'intérieur de mon être, je suis libre de tous et il n'y a plus rien qui me fait souffrir. Et c'est dans ce sens-là, c'est oublié, comprenez bien, par rapport à la douleur. Et la mémoire bien-aimée, c'est normal, ne disparaîtra jamais. Sauf si un jour vous avez Alzheimer, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, votre mémoire restera. Et c'est exprès, c'est un test. Parce que si je n'avais plus cette mémoire de ce qu'on m'a fait, si je n'avais plus la mémoire de ce qui me fait souffrir, à quel moment est-ce que je sais si je suis vainqueur ou pas ? Comment savoir si je suis guéri ou pas ? Comment savoir si je suis restauré, si je suis libre ou pas? Donc, avec cette mémoire qui sert de test, je vous le dis, je le formule ainsi, si le souvenir de ton vécu, mon frère, ma sœur, si le souvenir de ton vécu trouble encore ton cœur, si ça t'arrache encore des larmes, si ça trouble tes pensées, ça peut influencer tes choix, ça peut influencer tes décisions, ça influence ta façon d'être, ça influence tes comportements. Si d'une façon ou d'une autre, ça t'influence et que ça te conduit, c'est que ton passé n'est pas mort. C'est que ton âme n'est pas encore restaurée. Et c'est pour ça que Dieu permet ce souvenir, parce qu'il faut absolument, j'ai bien dit absolument, que le cœur soit restauré, l'âme totalement restaurée. Vous savez, frères et sœurs, le passé, on n'en a pas forcément conscience, le passé est une réelle puissance. Le passé, c'est vraiment puissant. Tant qu'on n'en est pas libéré, tant qu'on n'en est pas vraiment guéri intérieurement, le passé, qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, le passé conditionne le présent. Le passé détermine tes choix d'aujourd'hui. Conscient ou inconscient, tant qu'on n'a pas la restauration, avec un R majuscule, tant qu'on n'a pas la restauration de Dieu, on est toujours conduit par nos blessures. J'ai peur d'être blessé à nouveau. Donc, je vais adapter mes comportements en fonction de la peur d'une nouvelle blessure. On est conduit par des blessures. On est conduit par nos peurs. Parfois, on devient dur. On devient sec. On essaie de se protéger comme on peut. Mais en réalité, ça ne règle rien. Parfois, on en est conscient ou pas. C'est la colère, c'est le ressentiment. Le ressentiment, lorsqu'il n'est pas traité, la rancune, le ressentiment, l'amertume deviennent de la colère. Ce sont des paliers, des étapes qui montent crescendo comme ça. Et tant que ce n'est pas traité, il y a putréfaction. Et tout ça, en réalité, frères et sœurs, parce que le passé est une puissance spirituelle terrible, il y a ensuite toutes sortes de mauvais conducteurs, colère, etc. Des conducteurs, des mauvais conducteurs derrière lesquels le berger, non pas du troupeau qu'est l'Église, mais ce faux berger, ce mercenaire qu'est l'ennemi de nos âmes, le diable, lui, il se cache. Et là se trouve, frères et sœurs, là se trouve le comble. Jésus est mon sauveur. Je suis sauvé par la repentance et la foi. Amen. Mais en attendant, qui te conduit réellement sur ton pèlerinage spirituel ici-bas? Et parfois, j'en suis pas conscient, mais je dis, Seigneur, tu me guides. Seigneur, tu me conduis. Seigneur, tu es mon berger. Alors oui, il y a une facette du berger, il te nourrit. D'accord? Mais Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix, elles m'entendent et elles me suivent. Et si c'est la colère qui te conduit? Si ce sont tes peurs ou tes inquiétudes qui déterminent tes choix, si c'est peut-être de l'amertume, si c'est une situation non réglée avec un frère, une sœur qui détermine... Jésus n'est pas ton berger. Jésus est ton sauveur, mais il n'est pas ton berger. Et c'est là que du coup ça va vraiment poser problème, parce que comment, puisque le Seigneur ne me conduit pas, c'est mon passé et mes blessures qui me conduisent, comment est-ce que je vais pouvoir entrer dans l'avenir que le Seigneur a préparé pour moi? C'est pour ça, c'est ma pensée très simple ce matin. La restauration, frères et sœurs, elle est indispensable. Et la restauration doit être totale. Il va falloir aller traiter au fond des choses. Il va vraiment falloir aller au fond des choses. Parce que c'est pas normal que ce soit mes blessures qui m'aient façonné. C'est pas normal qu'elles me déterminent, qu'elles me conduisent. Du coup, je ne suis pas la personne que Dieu veut. Dieu veut que je sois fort, il veut que je sois libre, Il veut que je sois paisible. Il veut que je sois généreux, bon, compatissant comme lui, plein de grâce, épanoui. Il veut que j'ai une vie intérieure qui est exactement celle que lui, il est et qu'il dispense par le Saint-Esprit. Dieu veut que je sois, que je vive sa vie, que je vive comme lui. Mais tant qu'il n'y a pas une authentique restauration, mon identité est faussée. C'est pour ça que la restauration est tellement importante et qu'elle est nécessaire. Nécessaire signifie indispensable aux besoins de la vie. Qu'elle est indispensable. Parce que tant que je ne suis pas restauré totalement à 100%, mon identité de chrétien est faussée. Et Jésus n'est pas mon berger. Il est mon sauveur. Assurez-vous, amen. Mais il n'est pas mon berger. Et le caractère de Jésus ne peut pas s'imprimer en moi. C'est pour ça qu'il faut pas seulement parler de restauration, mais qu'il faut parler de restauration complète, de restauration totale. Joseph a bien dit, bon, c'est pas grave, laissez comme ça frère, la page d'avant, Joseph a bien dit, je l'avais surligné, Joseph a bien dit, toutes mes peines, toutes et toute la maison de mon père. Alors, bien sûr, c'est un chemin. On va progresser, on va avancer les uns les autres. Merci Seigneur pour chaque progrès. Merci au Seigneur pour chaque amélioration quand ça va un peu mieux. Mais vous savez, Dieu n'est pas le Dieu des rustines. Dieu n'est pas le Dieu des petits plus. Il ne vient pas nous coller des pansements ou des rustines sur les pneus crevés. Dieu est le Dieu qui restaure totalement et qui fait toutes choses nouvelles. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que la restauration soit complète, qu'elle soit totale. Parce que, je veux insister sur ce point, j'aurais tellement d'exemples à vous partager. Tout ce qui pourra rester, bien-aimé, tout ce qui pourra rester dans votre cœur, peu importe ce qui reste dans tout ce genre de sentiments que l'on a décrit, une peur, une inquiétude, une peine, une souffrance, un souci, une trace de ressentiment, une simple pensée. Je veux vraiment vous faire mesurer la gravité de la chose, le sérieux de la chose. Quand on n'a pas été au fond des choses, que tout n'est pas restauré, qu'il reste un petit quelque chose. Une pensée, frères et sœurs, une pensée qui n'est pas la pensée de Dieu dans votre cœur. Vous pouvez avoir 95%, 99% la pensée de Dieu. Vous avez 1% dans votre cœur qui n'est pas la pensée de Dieu. Ça a le potentiel de vous faire dérailler. J'exagère. Bientôt, on partagera 1 Samuel chapitre 27. Et on parlera de cet épisode tragique de la vie de David, où il s'est perdu, où il s'est égaré, il s'est fourvoyé. Il était poursuivi par Saül, par son beau-père. Dieu lui a fait grâce une fois. Il expérimente la protection de Dieu. Il est droit, il est intègre. Je ne toucherai pas à celui que l'Éternel a oint. Seigneur, à toi la vengeance, à toi la rétribution, c'est toi qui vas gérer. Et puis vient une autre occasion où Saül le poursuit. Et là, il a l'occasion et ses conseillers lui disent, maintenant David, il faut que tu règles tes comptes, tu dois y aller, c'est Dieu qui le livre entre tes mains. Et David dit, non, il y a des principes que je n'enfreindrai pas, je ne toucherai pas à cet homme. C'est Dieu qui l'a établi, c'est Dieu qui l'enlèvera, je n'y toucherai pas. Et deux fois, David est délivré miraculeusement de la main de Saül qui veut l'éliminer. Et puis, ça c'est la fin de 1 Samuel 26. Et puis 1 Samuel 27, vous relirez, David eut une pensée. Une. David se dit en lui-même, je finirai bien un jour par périr par la main de Saül. Un jour il va m'avoir, c'est sûr. Dieu vient de le délivrer deux fois. Il a la preuve sous ses yeux que Dieu est tout-puissant, que Dieu a honoré ses bonnes prises de position. Et là, il y a une pensée. Il prend peur, il panique, et il se dit, devant cette pensée, une, il n'y a pas d'autre solution pour moi que d'aller me réfugier au pays des Philistins. Et là, pendant 16 mois, pendant un an et demi presque, il va aller se réfugier chez le roi Achish, qui est un type de l'ennemi. Il va se rendre au Dieu, lui le roi de qui on disait il a vaincu ses 10 000. Il va se rendre au Dieu à Israël, son peuple. Et pendant 18 mois, pour une pensée qui n'était pas calée dans la pensée de Dieu, une pensée, pendant 16 mois, Il a été dans le compromis chez Achish. Ensuite, on a un Samuel 30, on a le dégât, on a la catastrophe de Tsiklag, tout l'espèce de rêve, de faux refuge, le faux refuge. Il s'était fabriqué un faux refuge. Le faux refuge s'est effondré. Il a fallu qu'il revienne à son berger. Il est revenu à la présence de Dieu dans la repentance et Dieu lui a permis de retrouver. Mais pour une pensée, il s'est égaré 16 mois. Mon frère, ma sœur, tout ce qui restera dans ton cœur, la moindre trace de colère, la moindre peur, la moindre rancœur, ce que vous voulez, mettez-le où vous voulez, même si ça a l'air anodin, sera nécessairement un mauvais conducteur. Dieu insiste pour que je vous dise, votre restauration bien-aimée devra être totale. C'est le plan de Dieu, pour que vous ne souffriez plus et que vous ne soyez pas entravés dans l'avenir que Dieu a pour vous. Il faut absolument donc vivre ce miracle intérieur, ce miracle de Dieu en toi, ce manassé, c'est une nécessité absolue. Voilà, je vous ai mis quelques exemples, vous avez compris. Peur, peine, souffrance, inquiétude, colère, amertume, rancœur, ressentiment, tristesse, méfiance, suspicion, une seule pensée. Tout ça nous empêche d'être la personne que Dieu veut que nous soyons. C'est pour ça que cette pensée est simple ce matin. Il n'y aura pas d'avenir sans restauration. La restauration doit être totale pour ne pas que l'avenir soit corrompu. C'est vrai ensuite, merci Seigneur, vous pouvez mettre l'image suivante, c'est vrai ensuite, merci Seigneur, qu'il existe un Éphraïm. Dieu soit béni. Cet Éphraïm qui signifie, ça va venir j'espère, cet Éphraïm qui signifie, sinon on notait comme ça, qui signifie doublement fécond. Dieu m'a rendu, dit Joseph, Dieu m'a ensuite rendu fécond dans le pays de mon affliction. Ça, c'est le miracle de Dieu à l'extérieur, dans les circonstances. Il va lui donner un avenir là où Joseph, là où tous les éléments étaient réunis pour le détruire, pour qu'il n'ait plus d'avenir justement. Un avenir là où il n'y a plus rien à espérer. Doublement fécond. Et tout le mois d'août, je vous ai dit, la volonté de Dieu pour vous, Église d'Aubagne, ce n'est pas de vous ramener à ce que vous avez connu de meilleur par le passé. C'est de vous emmener bien plus loin que ce que vous avez connu de meilleur par le passé. Ésaïe 54 dit, on retrouve avec des images différentes, dans des endroits, des moments différents, mais on retrouve le même principe. Dieu intervient, il restaure, il rétablit, il répare, il guérit les cœurs, il fait son œuvre. Le Dieu de l'impossible intervient et une fois qu'il est intervenu et que les gens sont vraiment à nouveau sur pied, là, à ce moment-là, il ne les remet pas tels qu'ils étaient avant, mais il les propulse beaucoup plus loin. Ésaïe 54, les fils de celle qui a été abandonnée seront plus nombreux que les fils de celle qui n'a jamais connu l'abandon, celle qui est mariée. Éphraïm, doublement fécond, un avenir là où il n'y a rien à espérer. Le Dieu de l'impossible veut et peut faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Et vous dire aussi, non seulement que il n'y aura pas Éphraïm sans Manassé, il faut absolument que Manassé vienne le premier. Je vais le dire en d'autres termes. C'est justement parce qu'il y a un Éphraïm qui arrive et qui est prêt dans le cœur de Dieu. C'est justement parce qu'il y a un Éphraïm qui est prêt qu'il va absolument devoir considérer Manassé. Mais le but de Dieu, c'est Éphraïm. Si on pousse un petit peu plus loin, vous relirez chez vous dans l'histoire de Joseph. Il y en a qui font, vous savez ce que je vais dire. Lorsque Israël, lorsque le vieux papa Jacob, le père de Joseph, commence à avoir lui aussi la vue qui baisse, il est âgé. Joseph qui est pleinement libre, pleinement restauré, libre de tous, pleinement entré dans l'avenir que Dieu avait prévu pour lui, il est là, il est beau, il a accompli l'œuvre de Dieu extraordinaire. Et puis il va emmener ses deux fils auprès de Jacob, son père, pour qu'il les bénisse. Et là, Jacob est assis, sa vue commence à baisser, et la droite de Jacob est de ce côté-là, parce que la droite est un symbole de bénédiction, et d'approbation, et d'avenir. Et comme Jacob est ici, il est d'usage, dans la pensée sémitique, il est d'usage que ce soit le premier-né qui reçoive la prééminence et la bénédiction. Donc, Joseph prend bien soin de prendre Manassé dans sa main gauche, Éphraïm dans sa main droite, de sorte que Manassé, son premier-né, parce que ce sont les usages, de sorte que Manassé se retrouve devant la main droite de Jacob, qui comme ça, ainsi, puisqu'il voit moins bien, n'aura qu'à faire ça, et à prononcer la bénédiction pour l'avenir de Manassé. Et là, si vous avez fait attention au texte biblique, c'est extraordinaire, parce que Jacob, inspiré, bien sûr il est inspiré par l'Esprit, sur l'instant ça a déplu à Joseph, c'est écrit, ce que Jacob fit déplut à Joseph, mais Joseph a compris qu'en réalité, il y avait vraiment, le but de Dieu c'était Éphraïm, le but de Dieu c'était l'avenir. Manassé était simplement le moyen d'arriver à Éphraïm, comme Manassé est pour toi le moyen d'arriver à Éphraïm. Et Jacob, à ce moment-là, au lieu de poser sa main sur Manassé pour lui donner la prééminence, il a volontairement croisé sa main et il a posé sa main sur la tête d'Éphraïm et il a béni Éphraïm et c'est à lui qu'il a donné la prééminence. Ça signifie pour vous, frères et sœurs, ça signifie pour toi, bien-aimé, que le Seigneur, le but ultime de Dieu, c'est ton avenir. Il n'est pas fort, le Seigneur ? Le but ultime de Dieu, c'est ton avenir. Même si, tu as des cheveux blancs, avec Dieu, tu as encore un avenir. Avec Dieu, tu peux encore être sérieusement béni. Tu peux être sérieusement en bénédiction. Tu peux encore sérieusement être utile. Tu peux encore être sérieusement efficace. Il y a tellement de choses que Dieu veut encore et peut faire. Je ne vais pas vous faire un message maintenant. Regardez tout ce que Dieu a fait avec des personnes âgées dans la Bible. Il y en a des paquets. Hein. Le but de Dieu pour toi, mon bien-aimé, c'est ton avenir. C'est Éphraïm. Et il faudra absolument Manassé en sera le chemin. Oui, Dieu a encore et toujours un avenir pour toi, bien au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Il est le Dieu de l'impossible. Et c'est pour cela, parce que le but, c'était Éphraïm, c'est pour ça qu'il ne faudra surtout pas négliger toutes les facettes de ce personnage qui s'appelle Manassé, savoir la restauration de nos âmes. Saisis cette parole, mon bien-aimé, saisis cette promesse. Peu importe ce que tu as souffert, je ne parle même pas forcément en termes d'église, dans la vie des uns et des autres, les souffrances ne manquent pas. Peu importe ce que tu as souffert, peu importe depuis combien de temps tu es dans la souffrance, le réparateur des brèches, le Dieu de l'impossible, le Dieu de résurrection, lui, n'est pas limité par le temps ni par tes souffrances. Il est toujours celui qui reconstruit celui qui est, ce qui a été cassé en nous, le Dieu de résurrection. Mais il est indispensable, il faudra, je termine avec ça, connaître d'abord une restauration totale afin que ton avenir ne soit pas en demi-teinte, que ton avenir ne soit pas corrompu. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu a bien plus encore en réserve pour toi. Ouh, ça c'était un beau amen. Du coup, je vais arrêter là, on va se recueillir. Amen ? On se recueille, s'il vous plaît.